pour reconnecter Diego.
Salut tout le monde, ça va bien?
À ses collègues.
Hey! Allô, le petit nouveau.
Et ses collègues, à Diego.
C'est parce que ça fait 7 mois que j'ai commencé.
Il y a la STM. La meilleure façon de se reconnecter.
Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore au micro. Merci de prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui sur Canal M pour l'émission Vivement les femmes. Je suis particulièrement fébrile aujourd'hui. J'ai avec moi deux personnes qui forment un couple pas ordinaire. Il me vient à l'esprit les premiers mots de la chanson de Paul McCartney et Stevie Wonder, Ebony and Ivory live together in perfect harmony. Caroline Saint-Hilaire et Maca Koto forment un couple depuis 17 ans. Ils ont reconstitué une famille de 6 enfants. Ils ont mené de front des carrières publiques, tous deux à titre d'élus. Pour en ajouter, ils ont mené à bien un titanesque projet de rénovation qu'ils ont documenté dans un livre tout d'abord drôle, intimiste, utile et qui lève les drapeaux rouges sur les risques des travaux de rénovation. Ce livre vient de paraître aux éditions de l'Homme. On peut dire qu'on reçoit aujourd'hui un power couple ou un super couple à Vivement les femmes. Bonjour Caroline Saint-Hilaire.
Bonjour Marjorie.
Bonjour Maca Koto.
Bonjour Marjorie.
Merci, bienvenue tous les deux à Vivement les femmes. Donc, je vous ai présenté comme un power couple et puis un super couple. Laissez-moi vous expliquer ma définition de super couple. Alors, pour moi, un power couple, c'est un grand homme derrière une grande femme et vice-versa. Individuellement, chacun brille. Ensemble, ils éclairent la voie lactée. Individuellement, chacun a du succès. Ensemble, ils sont heureux dans leurs succès respectifs. Ils ne se font pas d'ombre. La réunion de leurs forces et même de leurs faiblesses les rend plus puissants. Est-ce que vous vous reconnaissez?
Absolument. Et Marjorie, je regrette de ne pas vous avoir appelé pour signer notre préface. C'est une magnifique. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et en plus, votre présentation, je vous avoue, m'a touchée beaucoup parce que vous avez parlé de la fabuleuse chanson Ebony and Ivory.
Oui.
Qui en plus est une chanson culte et importante pour Maca et moi. Elle a même joué à notre mariage. Ça a été notre chanson, notre première danse, comme on fait traditionnellement.
Wow! Oui.
Et vous avez raison. J'essaie de reprendre vos paroles. Vous l'avez si bien décrit. Mm-hmm. On est bien individuellement, bien ensemble comme couple. Mais quelle belle description.
Bon, je suis très contente. Donc là, maintenant, laissez-moi vous présenter, parce que l'émission quand même traverse les frontières. Donc, Caroline Saint-Hilaire, vous avez été députée du Bloc québécois à la Chambre des communes de 1997 à 2008 et la première femme élue mairesse de Longueuil de 2009 à 2018. Également animatrice à la radio et commentatrice politique à la télé. Vous êtes depuis peu vice-présidente relations gouvernementales pour le LICEN, un cabinet de relations conseil. Vous êtes auteur du livre « Se faire entendre » où vous vous êtes livré en toute simplicité, livre que vous avez travaillé avec Geneviève Lefebvre, paru chez Libre Expression. Maca Koto, vous êtes née à Douala, au Cameroun, et vous êtes arrivée au Québec en 1990. Artiste reconnu, vous avez été également, tout comme Caroline, députée du Bloc québécois de 2004 à 2008, puis députée du Parti québécois à l'Assemblée nationale de 2008 à 2018. Vous avez occupé la fonction de ministre de la Culture et des Communications dans le cabinet de Pauline Marois de 2012 à 2014. Depuis 2020, vous écrivez toutes les semaines dans le Journal de Montréal. Et là maintenant, ensemble, vous avez écrit un livre, « Rénover sa maison, sans démolir son couple » paru aux éditions de l'Homme. Il y a quelques jours, nous allons en parler plus en détail au cours de l'interview. Donc, moi, ce que je me dis lorsque je vous regarde, c'est qu'avec des carrières prolifiques, et vos personnalités charismatiques. Caroline, dans votre livre à la page 111, vous dites « D'un accord tacite, nous avons toujours respecté nos zones de mise en lumière. Aujourd'hui, c'est toi, la vedette de l'événement. Je reste dans l'ombre. Et demain, ce sera l'inverse. » Est-ce cet accord tacite qui a permis à votre relation de couple de survivre avec vos brillantes carrières respectives?
Certainement, certainement. Il y a au-delà de l'amour, parce que bon, c'est la base pour qu'un couple fonctionne et dure longtemps et qu'il se rencontre, mm-hmm. il y a cette notion de respect aussi. Parce que moi, quand j'ai rencontré Maca, bien qu'on était tous les deux en politique, Maca avait un rayonnement international, c'est un acteur, c'est un artiste, donc il existait, non seulement sur le plan personnel, mais il existait aussi sur la place publique. Et j'ai toujours respecté ça, admiré ça, et jamais voulu éteindre cette passion, cet élan qu'il avait. Mm-hmm. Et je pense bien que c'était la même chose pour lui parce qu'on s'est connus dans ces environnements où on existait sur la place publique parce qu'on avait des choses à faire. Et vous savez, la première chose qu'on m'a dit à l'époque quand je suis rentrée en politique, c'est que 50% des couples ne franchissent pas le deuxième mandat parce que c'est très difficile.
Ah oui.
Et je pense que c'est la force du couple qu'on forme, Maca et moi, mm-hmm. c'est cette compréhension de ce que fait l'autre,
oui.
de l'utilité de ce qu'il fait, ce qu'elle fait. Et je pense que ça compense pour tout le reste qui, des fois, bon, comme n'importe quel couple, c'est pas parfait, c'est pas un long fleuve tranquille, mm-hmm. mais il y a cette compréhension-là.
Oui, oui. Donc, je poursuis. Maca, vous avez décidé, les deux ensemble, de vous engager dans une relation où toutes les différences y étaient. Couple mixte, différences culturelles, famille recomposée, éducation différente, hyperactive, mais je sais que Caroline aime mieux femme d'action, et vous, calme et réservée. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez pris conscience de tous ces degrés de difficulté que vous devez surmonter? Je pose la question à Maca.
On ne peut pas anticiper l'ensemble des défis, entre guillemets, mm-hmm. Dans une équation comme celle que nous incarnons avec l'enjeu de la recomposition de la famille, des six enfants qui ont des personnalités très fortes,
voilà.
Si individuellement parlant. Mais nous avons néanmoins réussi à les faire converger. Mm-hmm. Dans le même sens d'appartenance,
oui.
À la nouvelle famille. Et aussi, je m'amusais à l'occasion, pour ce qui est de la complicité qui a été tricotée entre les enfants, je m'amusais parfois à les dresser contre moi intellectuellement.
Oui.
Lors des débats de fin de repas, il prenait des positions sur des enjeux, sur des sujets.
Mm-hmm.
Je faisais exprès de prendre des positions inverses pour créer et les pousser jusqu'au bout de leurs arguments. Ça participait à la culture de la complicité entre eux. Et ça a été très fréquent.
Oui.
Jusqu'à aujourd'hui, maintenant qu'ils vivent à gauche et à droite, ils en parlent entre eux. Mais mm-hmm. pour nous, Caroline et moi, on affrontait chaque défi au quotidien et à chaque problème, il y avait toujours une solution. Donc,
oui.
La finalité était de tenir la distance et la greffe entre les deux familles a été un grand succès.
Un grand succès. Ça m'amène à vous demander, les deux, quelle a été la première différence culturelle avec laquelle il a fallu faire un compromis de part et d'autre? Caroline, est-ce que vous avez une idée?
J'oserais dire, sur le plan culinaire, possiblement,
mm-hmm.
Étonnamment, en fait, c'est ce qui me vient à l'esprit. sur le plan culinaire parce que, les références, par exemple, dans le temps des fêtes où moi, on est habitué de manger du ragoût de boulette, de la tourtière, et c'est un plaisir fou pour moi de cuisiner ça pendant des jours, pour ne pas dire des semaines. Mm-hmm. Et Maca, les premières fois, me regardait comme, ne comprenait pas, non pas que je fasse la cuisine, mais ces repas-là, pour lui, ça ne résonnait à rien du tout. Et à l'inverse, de le voir mettre du piment sur tout ce que je cuisinais.
Oui.
À chaque fois choquée, je me disais, mon Dieu, ma bouffe est vraiment mauvaise. Vous allez me dire, c'est anecdotique, là, mais en même temps, c'est un apprentissage parce que c'est de ne pas le prendre personnel parce que l'autre met du piment dans sa nourriture, de ne pas être vexé que pour lui, ça n'a pas de résonance, le sirop d'érable le samedi matin, pour lui, ça c'est oui. Bon, mais il peut mettre du sucre blanc puis ça va être pareil. Il y a cet apprentissage culinaire qui force une compréhension, qui force aussi l'écoute de l'autre,
oui.
Pas pour Maca que pour moi, parce que, bon, ça peut avoir l'air assez superficiel, mm-hmm. mais en même temps, on finit par comprendre qu'il peut y avoir des moments de tristesse, parce que quand toi, tu es dans ta joie de cuisiner ton ragoût,
oui.
Lui, il est loin de ses références de son enfance, donc il y a quand même ces chocs-là constamment que tu es marié avec quelqu'un qui vient d'ailleurs.
Exactement, oui. Mais merci d'avoir... Et Maca?
Moi, je dirais deux choses. J'évoquerai deux choses. Il y a les fêtes de Noël et les anniversaires.
Oui.
Pour moi, c'est insignifiant. Je le dis en me protégeant la joue.
Il a appris à ses dépens.
Et donc, il a fallu que je m'adapte.
Oui.
Et que je trouve... une source de stimulation,
oui.
Pour participer comme Caroline et tous les enfants. Moi, je grandis loin de tout ça. Je viens d'un milieu très modeste, qui plus est. Noël, pour nous, c'était... Si il y a le nouvel an, oui. Quand mm-hmm. on passait d'une année à l'autre, oui, ça avait du sens. Mais Noël, non. L'anniversaire, non plus. On pouvait en oublier, mais... À la maison, au début de notre relation, quand j'en oublie un d'anniversaire.
Il passait avec un mauvais
dire. J'en doute pas. Mais gardez, on revient tout de suite. Nous allons faire une petite pause musicale, écouter une chanson choisie par Maca.
Jimo e wando to enge langwe yamba Ome ano Omatakano Jimo e wan sese wenge langwe yamba O lingino O sima topo no langwe yamba Na temi o wa Oma sanedi O sime ne ba mwe se bulu Tome sanedi Punya bonia Bete jesele Sori si se yadi Dangwe mwe bandi Alami yo sesele Misoni mi masuleye Wa umiso Mimba dutu oje, mimba sese Yala bandolo, wali sanewa O sega, si sega Besoka bandolo, langwe yawa O sega, si sega O sega, sono sega Si sega, bebe na mabu, nyaboni ya jese Yenge bandolo, olonge yawa O sega, si sega Thank you. bomba saneti O se meneba mwe se bulu to me saneti Bunga bonia Bete jesele Sone si se yari da kwe mwe bali ala miyo Sesele Nama puselena nama kandane Olangwe ya wa Nana toni wa Nana kie wa Nami mbape nana yokibe Jita swaluke Nena toni wa Nama buwande wa Chikandolo O silingae Lakisemba O silingae Kwali sane somba Bise somba Na otoni ba Na okie ba Kwali sane somba Bise somba Na otoni ba
Je poursuis avec mes invités Caroline Saint-Hilaire et Maka Koto, couple phare et inspirant. Maka, pourquoi avoir choisi cette chanson et puis qu'est-ce qu'elle raconte?
Mais c'est une chanson qui a été écrite, composée, interprétée par un ami d'enfance qui fait une brillante carrière en Europe et en France particulièrement. Il s'appelle Étienne Mbappé. Il est né au Cameroun à Douala, on a grandi dans le même quartier, même collège, et quand il m'a envoyé ce titre-là, il y a quelques années, il me rappelait que c'est, parce que j'ai 3 ans de plus que lui, que c'est sur mes conseils, mes encouragements, qu'il a tenu tête à ses parents.
Je vois.
Il ne le voyait pas devenir un saltimbanque, et qu'il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui, un grand musicien. Et la thématique de la chanson cadre parfaitement avec les circonstances du moment. Mm-hmm. Une guerre en Ukraine, ça parle d'empathie, ça parle de compassion, et au sens large, au sens individuel, c'est la main tendue à toute personne qui est isolée, qui est prise aux prises avec la solitude.
Genre de
version en Douala de Stand By Me.
Ah, d'accord, je vois. Ouais. Mais merci, une très belle découverte. Ça m'amène à vous poser la question, dans votre couple, hein, c'est différent, il y a tout de même quelque chose qui vous unit, hein, c'est l'allégeance politique. Donc, j'aimerais vous poser la question, votre couple aurait-il été durable ou même possible si vous n'aviez pas eu les mêmes allégeances politiques?
Je pense que oui, à moins que ce soit, diamétralement opposé, là, de façon radicale, possiblement que non. Je pense qu'à la base, on a les mêmes valeurs, bien que, puis on en parle dans le livre, là, Rénover sa maison, Maka est beaucoup plus à gauche, moi je suis un petit peu plus au centre, lui il va dire à droite, mais je suis plus au centre droite.
Oui.
Donc, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas nécessairement la même opinion.
Oui.
Et je pense qu'on a le même objectif, le même intérêt à la base. Donc, je pense que ça, c'est plus fort que des grands partis politiques ou quoi que ce soit. Bien sûr, on était au Bloc québécois, on avait essentiellement les mêmes opinions sur plein d'enjeux, mais sur beaucoup d'enjeux, on ne pensait pas nécessairement pareil. Dans le fond, notre couple, ça ressemble un peu à un caucus de partis politiques. Des fois, on débat à l'interne, mais on finit par déterminer une position commune de couple. Et donc, sinon, ben, on reprend les échanges un petit peu plus tard.
Oui.
c'est une richesse que de ne pas être sur la même longueur d'onde sur tout et pour tout.
Oui, en effet.
C'est un enrichissement. Et moi, je n'ai jamais eu de difficulté avec ça parce que fondamentalement, je n'aime pas la partisanerie. Je déteste.
Oui, c'est ce que j'ai vu.
C'est très tordu. Et je n'ai jamais été à l'aise là-dedans. Et c'est d'ailleurs pourquoi, parfois, quand on me demande « Est-ce que tu as aimé ça, faire la politique? » Je dis « J'ai aimé servir les gens, prendre soin des gens, des femmes, des enfants, des familles en tant que député. J'ai aimé faire le travail de député dans le cadre des commissions parlementaires ou des comités parlementaires pour ce qui concerne Ottawa. Je suis plus sur le mode conciliation. Et quand j'ai en face de moi quelqu'un qui pense pas comme moi, je l'écoute. Je veux savoir ce que je ne comprends pas. Et à partir du moment où il y a un argumentaire qui tient la route, je prends cela en considération et j'enrichis ma propre position en conséquence.
Oui, je vois. Maca, je continue avec vous. Caroline parle ouvertement dans son livre du racisme de son père, qui lui-même, qui avait même averti Caroline de ne pas ramener un nègre à la maison. Lorsqu'elle vous en a parlé, qu'avez-vous pensé?
Ah ben, j'ai ri.
Oui? Ah oui, d'accord.
Oui. J'ai éclaté de rire parce que je connais les fondements de tout ça.
C'est ça.
Voyager un peu partout pour avoir vécu dans un pays où on compte une diversité d'ethnies qui ne se sont pas toujours entendues. Mais j'ai eu l'opportunité de passer 6 années dans un pensionnat de jésuites parce que je me destinais au métier de prêtre au départ. Et vivre dans la diversité, ça permet d'être témoin de ce genre de posture, le tribalisme qui est pire que le racisme, qui est le cancer de l'Afrique en général, je l'ai connu. Donc nous, au sein du collège, nous apprenions justement à dépasser ces, j'appelle ça des émotions, sont des émotions. Face à l'inconnu, on a souvent cette posture de « je ne veux rien savoir de ça ». Donc moi, avec l'expérience, ça m'a juste fait rire et je voulais rencontrer le père de Caroline. Et quand on s'est rencontrés dans un café, au bout d'une heure, mettons 2 heures d'échange, de discussion, on était devenus les meilleurs amis du monde et plus personne ne pouvait dire du mal dans mon dos et qu'il soit témoin sans réagir, parfois même violemment.
Donc, vous avez pu le séduire, il a pu voir aussi que...
Non, on a pu se rencontrer.
Vous rencontrer, d'accord.
Oui. Parce que c'est quelqu'un qui a vécu dans un univers, dans un milieu où la diversité ne s'inscrivait pas.
C'est ça, n'était pas présent.
Et donc, je pense, Caroline peut me corriger, la première entité diamétralement opposée à son identité, à lui. C'est ça la réalité.
Non, c'est peut-être l'ignorance, carrément.
C'est ça.
Quand tu sais pas, tu connais pas, mon père vient du lac Saint-Jean, bon, il a 82 ans, c'était pas quelqu'un de foncièrement méchant.
Tout à fait.
C'est quelqu'un qui avait aucune éducation. Les images qu'il avait, et la télévision, les médias ont une responsabilité, c'était toujours des images négatives. Il connaissait pas d'images positives. Il avait pas connu non plus de personnes différentes. Je veux pas le défendre, là, parce qu'on s'est chicané quelques fois là-dessus. mais effectivement, et maintenant, je veux dire, effectivement, comme dit Maca, ne parlez jamais en mal de Maca. C'est une rencontre.
Belle rencontre.
Mais c'est comme ça qu'on fait de l'éducation aussi.
Oui,
hein?
c'est pourquoi face à des situations de racisme, il ne faut jamais réagir. Je parle de réaction. La réaction exclut la réflexion.
Voilà.
Et il faut être ouvert et persister à aller à la rencontre
de l'autre,
de la personne en face.
Puis je fais du pouce, Marjorie, je me permets, parce que c'est important ce que vient de dire Maca, parce que Maca aurait pu avoir la réaction normale de dire « ben ton père ne m'intéresse pas, je le rencontrerai pas, et c'est la fin de la discussion. » Et là, mon père serait resté dans ses pensées, dans son comportement, dans ses préjugés. Et là, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui évolue. Alors, il fallait que Maca prenne le temps. Il a fallu que mon père aussi prenne le temps, soit en mode d'écoute et en mode d'acceptation.
Oui.
Mais c'est pas banal. Bon, Maca n'a pas le temps de rencontrer tous les racistes du monde entier. et je pense qu'il faut les faire, ces rencontres-là. Et c'est tout à l'honneur de Maca. Il aurait pu se braquer puis dire, ben, fermer la porte, tout simplement.
Tout à fait. Non, je suis bien, bien d'accord avec vous. En lisant vos deux livres, hein, ce que l'on retrouve dans vos livres, c'est cette admiration l'un pour l'autre et qui perdure parce que ça se ressent aussi lorsqu'on vous voit et lorsque vous parlez. Est-ce que, selon vous, c'est un élément important dans la durée de votre relation?
Ben oui. Marjorie, nous, en tant qu'entité, nous sommes des vecteurs, des paramètres d'une création dont 95% du sens nous échappe. Mm-hmm. De l'infiniment grand à l'infiniment petit, on devrait se concevoir comme des univers, comme des mondes à part entière. Mm-hmm. Et quand on va à la découverte d'un monde, c'est-à-dire de l'autre, il y a tellement de choses à apprendre, tellement de choses à découvrir. Mm-hmm. Et c'est merveilleux. Les gens se pâment quand on voit un robot faire des miracles sur Mars.
Oui.
Mais cet émerveillement, on devrait l'avoir quand on rencontre un individu aussi, mm-hmm. parce que c'est également un univers à part entière. Et c'est depuis notre première rencontre, on n'a fait que ça, se découvrir, s'explorer,
oui.
Parce que nous-mêmes, en tant qu'entité, on ne se connaît pas à 100%, hein, on apprend à être on apprend qui nous sommes au quotidien,
en effet.
Dans la pratique, dans les interactions.
Mm-hmm. Ouais. Alors, restez avec nous, Caroline et Maca, encore pour une petite pause. Merci.
Reconnecter Martine.
Hey, comment ça va?
À Karim.
Super, pour vrai, ça fait longtemps.
Et Karim, à la bibliothèque.
Oups, excusez.
Il y a la STM, la meilleure façon de se reconnecter.
Vous écoutez Vivement les femmes, avec Marjorie Théodore.
Je poursuis avec mes invités, Caroline Saint-Hilaire et Maca Cotto, couple phare et inspirant. Alors, votre livre « Rénover sa maison sans démolir son couple » sorti il y a quelques jours, paru aux éditions de l'Homme, a été un projet commun. Est-ce que, après avoir traversé bien des défis dans votre couple, avez-vous pensé en amont que ce projet de rénovation aurait eu autant d'impact sur votre vie de couple? Je pose la question à Caroline.
Pas vraiment. En fait, on avait quand même rencontré, consulté, échangé avec des gens qui avaient rénové. Mm-hmm. Bon, puis on avait entendu des histoires d'horreur, on avait entendu des belles histoires, mais je pense pas qu'on avait imaginé, anticipé que ça pouvait, premièrement, être une catastrophe sur le plan des rénovations, que ce serait difficile sur le plan du couple, bien que, franchement, on a eu quelques bas, quelques hauts durant ces rénovations-là au niveau, oui, du couple, mais somme toute, ça a été quand même... pas si pire, disons ça, mmh, comme ça. Ça aurait pu être pire, fort probablement... grâce justement à cette maturité de couple qu'on a bâtie au cours des années, oui, cette notion de respect, cette notion de communication aussi qu'on a développée au cours des années. Puis c'était quand même un projet qui devait à la base durer quelques semaines, mm-hmm. qui finalement a duré 20 mois à cause de plein de raisons. On explique les raisons pendant à peu près 200 pages dans notre livre. Puis avec la pandémie en plus. Donc, pour faire une réponse courte,
oui.
Non.
Oui, non. Hein? Donc, moi, ce que j'ai quand même qui m'a interpellée, c'est vos enfants, alors les 6 enfants, qui vous recommandent de rénover au lieu de vendre. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez ressenti, parce qu'il y a quand même quelque chose d'une réussite familiale, de cohésion familiale.
Oui, ils nous ont amenés à faire une mise au point que nous étions à des années-lumière de vouloir faire, mm-hmm. Occuper l'un l'autre. On y allait dans la facilité au départ. Mais effectivement, cette maison est l'endroit où ils ont bâti leur identité, mm-hmm. l'endroit où ils ont bâti leur complicité, leur fratrie. Et aussi, il fallait de notre côté se rendre à l'évidence qu'on y avait beaucoup de souvenirs marquants. Nous nous sommes mariés là. Mm-hmm. Et nous avons eu beaucoup de joie de nous retrouver dans cette maison systématiquement après des semaines de fous dans des parlements ou à la mairie pour ce qui en ce qui concerne Caroline. Oui, ça valait la peine, ça valait le coup. Sur la balance, c'est ce choix qui a pesé lourd.
Ouais. Il y avait beaucoup de souvenirs, de mémoire. Puis, à la page 66 du livre « Rénover sa maison sans démolir son couple », vous nous partagez ceci. Au fil de vos années de complicité, vous avez appris à vous faire confiance et à écouter l'intuition de l'autre. Est-ce que c'est quelque chose que vous cultivez constamment au sein de votre couple?
Oui, oui. Pour notre couple et sur le plan individuel, les deux, on a de fortes intuitions. Mm-hmm. Bon, je dirais que la mienne est meilleure, là.
Moi, je compense par le rationnel.
Oui, c'est ça. Macaille a une forte intuition, oui. Mais effectivement, son rationnel, des fois, l'amène à oublier ou en tout cas à tasser son
prendre
intuition.
Prendre le dessus.
Prendre le dessus. Des fois, il essaie de prendre le dessus aussi de mon intuition, mais je pense, je ne vais pas parler pour lui, mais j'en ai une très, très, très forte. Et elle m'a habituellement toujours bien servie, bien guidée. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les deux, on le sait que l'autre a une intuition forte, oui. Et compte tenu du fait qu'on sait qu'on en a une forte aussi, mm-hmm. personnellement, on est capable de dire « OK, je ne comprends pas exactement ce que tu veux faire, mais compte tenu que tu as l'air d'avoir une réelle intuition de motivation, je te suis.
Je
ne comprends pas, mais je te suis. » Parce que, habituellement, quand je vais parler pour moi, si j'ai une intuition, une idée ou quelque chose que je pense que je devrais faire pour X, Y raison, Maca va me poser des questions rationnelles pour challenger mon intuition, mon idée. Mais si à un moment donné, je manque d'arguments rationnels,
oui.
que je suis toujours motivée par cette intuition, jamais il va me freiner. Parce qu'il sait, un, il ne sera pas capable. Deux, il sait que si j'ai cette intuition-là oui. en moi, qui est si forte, mm-hmm. même si elle n'est pas rationnelle et que je suis incapable de l'expliquer rationnellement, il va m'aider, il va me pousser plutôt que de me ralentir.
Oui, oui, je vois.
Et Caroline s'est rarement trompée pour mm-hmm. faire le point.
Extraordinaire. Vous avez choisi d'écrire ce livre à la troisième personne. Donc, je m'attendais à que vous employiez le jeu, mais c'est à la troisième personne. Est-ce que, pourquoi c'est un choix éditorial? C'est un choix?
On a créé un un rédacteur qui s'appelle, enfin, que nous avions qualifié, parce qu'on ne l'a pas spécifié dans le livre,
oui.
Nous l'avions qualifié Macaroline, il s'appelle Macaroline.
D'accord, c'est, oui.
Donc, le regard qu'il posait dans ce récit était un regard qui se voulait objectif. Mais à côté de cela, Caroline ou moi avions de temps en temps besoin de mettre notre grain de sel particulier dans ce que racontait ma Caroline. Et c'est ce qui donne le résultat que nous avons aujourd'hui sous les yeux avec des bulles qui interviennent de temps en temps dans le récit que rapporte le narrateur.
Oui. Parce qu'en fait, Marjorie, c'est un livre qu'on a vraiment écrit à quatre mains. Donc, il fallait trouver une façon que les deux puissions nous exprimer sur les sujets.
Oui.
Et c'est pour ça que le « je » ne fonctionnait pas ou le « nous », parce que même si on a vécu les rénovations, les deux en même temps.
Oui.
De toute évidence, on ne les a pas toujours vécues de la même façon. On n'avait pas toujours le même regard.
Mm-hmm.
Et c'est un peu comme ça que l'idée est arrivée de dire, OK, on va avoir un narrateur neutre qui va raconter ce qu'on a vécu et en permettant que moi, j'intervienne, que Maca intervienne, chacun à des moments où soit qu'on n'était pas d'accord avec le narrateur, mm-hmm. ou on avait envie de pousser quelques idées un petit peu plus loin.
Oui,
C'est pas de la schizophrénie, c'est de la trigophrénie.
Exactement. Mais je dois vous dire que c'est très intéressant. C'est juste que dans les premières pages, ça nous déstabilise un peu. Et puis après ça, hop, on rentre dans le corps, dans le contenu. Donc, alors, puis je voulais vous poser cette question-là. Mm-hmm. J'aimerais savoir, est-ce que avoir autant mis d'énergie dans les rénovations, est-ce que vous souhaitez que cette maison que vous avez choisi d'habiter reste pour la pérennité?
C'est un souhait.
C'est un souhait, d'accord.
Oui.
Un souhait. Puis de toute façon, Maca l'a bien dit tantôt, il y a tellement de souvenirs.
Oui.
On a encore des choses à vivre ici. Juste le fait qu'on n'a pas encore réuni toute la famille depuis la pandémie.
Oui.
On n'a pas encore eu la joie, le bonheur d'avoir les 6 enfants et les petits-enfants tous en même temps. Là. C'est arrivé qu'il y en ait 1 ou 2 à la fois, mais jamais les 6.
Mm-hmm.
Et donc, on ne peut pas se débarrasser de la maison tant qu'on n'aura pas été au moins réunis tout le monde ensemble, ça c'est certain. Mais le souhait, c'est que maintenant qu'on l'a mis un peu, non seulement au goût du jour, mais qu'on l'a rendu confortable pour pouvoir y vieillir ici, ben c'est un peu ça le souhait là, qu'on a fait.
Mais nous ne sommes pas maîtres du destin.
Non.
le maître des horloges,
c'est
pas nous.
Oui. Alors, avant d'aller à la petite pause, j'ai une petite question rapide. Est-ce que, je sais que vous aviez eu 6 enfants, famille reconstituée, est-ce que vous avez pensé avoir des enfants ensemble?
Oui, mais en fait, je pense qu'on pourrait faire une heure là-dessus.
Exactement, c'est ça. C'était simplement pour savoir si ça avait effleuré votre couple.
Oui, ça a effleuré. Voilà. Notre vie, peut-être.
Exactement, mais avec 6, ça allait déjà. Alors, merci. Nous allons continuer maintenant à écouter un choix musical de Caroline.
Un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller un peu plus loin. Je veux voir comment c'est là-haut. Garde mon bras et tiens ma main. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller encore plus loin. Laisse mon bras et tiens ma main. Je n'irai pas plus loin qu'il faut. Encore un pas, encore un saut. Une tempête et un ruisseau. C'est ta main, attends-moi là-bas, je reviens, encore un pas, un petit pas, encore un saut et je suis là, là aussi je ne tombe pas, non j'y suis, je ne tombe pas. «
tu ne me vois pas. Un peu plus loin, un peu plus seul. Je ne veux pas être loin toute seule. Viens voir ici comme on est bien. Quand on est haut, oh, oh, comme on est bien. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je ne peux plus te tenir la main. Dis-moi comment j'ai pu monter. Comment descendre sans tomber. Un peu plus loin, un peu plus fort. Encore un saut, essaye encore. Prends garde, je laisse ta main. Attends-moi là-bas, je reviens. Encore un pas, un petit pas. Tu es trop loin, je t'aime. Adieu, adieu, je reviendrai. Si je redescends sans tomber, c'est bon, c'est bon. Si tu plus loin, je vais aller encore plus loin, peut-être bien qu'un peu plus haut, je trouverai d'autres chemins.
Je suis de retour avec Caroline Saint-Hilaire et Maca Koto. Le choix de Caroline, la chanson de Ginette Renaud, un peu plus loin, un peu plus haut. Je dois vous dire, après avoir lu votre livre, Caroline, je trouve que c'est un choix qui vous va. Alors, Caroline, vous avez été la première femme à avoir été élue en 350 ans à la mairie de Longueuil. Et chaque fois que vous avez pu, vous avez nommé une femme à un poste décisionnel. Ceci m'amène à faire un lien. Vous avez co-créé la QV, hein, qui est un OBNL avec deux autres femmes, je crois, Sophie Villeneuve et Flavie Payette-Renaud. Pour vous, est-ce que c'était une façon de poursuivre ce que vous avez fait en tant que mairesse, c'est-à-dire donner la place aux femmes?
Oui, certainement. C'est avec Sophie et Flavie, effectivement, qu'on se rendait compte que souvent, on regardait différentes nominations à gauche et à droite, puis un peu comme tout bon gérant d'estrade, on critiquait, mais on se disait, OK, comment on peut faire pour que les femmes soient nommées à des endroits? Parce qu'il y a deux réalités. Il y a le fait que les femmes souvent manquent de réseau, mm-hmm. manquent de confiance en elles pour offrir leur candidature. Et à l'inverse, il y a des entreprises qui les cherchent, ces femmes-là, ils disent toujours, on ne les trouve pas. Alors, avec la QV, les femmes, dans le fond, mettent leurs compétences, offrent leurs services sur une plateforme qui est sécuritaire et les entreprises peuvent recruter ces femmes-là. Et oui, effectivement, moi, ce que j'aime de l'action féministe, c'est justement c'est d'être dans l'action parce qu'on peut critiquer, on peut chialer, oui. on peut s'indigner, on peut manifester, mais si ça ne change rien, ça ne m'allume pas autant que si on est dans l'action. Alors, je peux bien dire que je suis féministe, mais quand je suis au pouvoir, si j'ai une occasion de nommer une femme puis je ne le fais pas, mm-hmm. ben, mon féminisme ne vaut pas grand-chose. Et à l'inverse, quand j'ai des idées pour justement faire en sorte que les femmes puissent avoir de la place, prennent leur place, ben je m'inscris plus dans l'action, justement, de changer les choses. Et c'est dans ce sens-là que je... Mm-hmm. On parlait de politique tout à l'heure, parce qu'on parle beaucoup de politique partisane, mais il y a d'autres façons aussi de faire de la politique. Et quand on fait de ce genre d'intervention-là, je pense qu'on contribue très modestement. Là,
oui.
Mais on fait chacun une petite part, puis je pense que ça peut changer des choses tranquillement.
Mm-hmm. Maca, on parle de l'aide donnée aux femmes. Bon, c'est sûr qu'il y a des organismes et puis on tend à vouloir briser le plafond de verre. On parle de violence conjugale, leadership au féminin. J'aimerais vous poser à vous, Maca, si vous aviez à mettre un organisme sur pied dédié aux hommes, selon vous, qu'est-ce qui manquerait pour aider les hommes?
Ce qui manquerait, c'est justement cette prise de conscience à l'effet que l'homme, comme la femme d'ailleurs,
oui, oui,
est le produit d'une femme. Mm-hmm. Moi, j'ai eu le bonheur de grandir au milieu de femmes. J'ai une mère adorable et aimante.
Oui.
J'ai eu une grand-mère tout aussi aimante et adorable, une arrière-grand-mère tout aussi adorable et aimante, et j'ai trois sœurs. Donc, vous voyez, j'ai grandi avec cette conscience que je suis dual, et j'assume cette dualité qui s'inscrit dans la sensibilité. Je n'ai pas de prédisposition au machisme, et ma mère, mes grands-mères, mes sœurs ne m'ont pas orienté là-dedans, et n'eût été de ma mère, je ne pense pas que j'aurais eu la chance de vivre l'expérience humaine que je vis sur Terre en ce moment.
Ouais.
Voilà, en gros.
OK. Vous avez, Caroline, vous êtes depuis peu présidente relations gouvernementales pour le LICAN, puis c'est un poste assez récent. Et vous, Maca, que faites-vous maintenant? Je sais que vous écrivez dans le Journal de Montréal. Que faites-vous ou qu'est-ce que vous avez envie de faire prochainement?
Ce que je fais en ce moment,
oui.
J'écris parce que j'ai décroché de la politique active. Donc, ça m'a rendu ma liberté. C'est tellement, oui, c'est tellement agréable au bout de 14 années de sacerdoce politique. Mm-hmm. Je travaille sur... des projets, il y en a deux qui sont, je ne peux pas en parler parce que j'ai signé un document là-dessus.
Oui.
Je suis revenu à mes premières amours, mm-hmm, les arts. Et donc, ce sont deux projets qu'on va découvrir cet automne,
oui,
qui sont purement et strictement artistiques. Et puis, j'écris de la poésie.
Mm-hmm.
Vous entendrez parler de lui bientôt.
Bientôt. Bon, c'est ça. Alors, on ne va pas pousser la curiosité plus loin. On va rester sur notre fin. Voilà. Mais c'est vraiment... C'est très bien. Je fais un lien aussi à ce que vous avez dit tout à l'heure, Maca, pour revenir. L'aide qu'on pourrait amener aux hommes, ce serait cette prise de conscience. Est-ce que... selon vous, on n'en fait pas assez pour les hommes?
Selon moi, pas assez parce que la société dans laquelle nous vivons, les espaces de vie dans lesquels nous vivons,
oui,
sont imprégnés par des marques masculines. La société, c'est pas pour rien qu'on a des mouvements féministes, mm-hmm, on a des revendications féministes et tout ça. S'il n'y avait pas de problème, il n'y aurait pas de revendications.
Mm-hmm.
La vie serait normale et tout le monde serait en lien harmonieux avec l'altérité,
oui,
qu'est le féminin. Mais c'est parce qu'il y a des problèmes de ce côté-là que des batailles, des causes sont encore à soutenir. L'éducation des garçons, ça,
oui,
commence très tôt, hein,
oui,
et doit se faire avec cet input qui doit être ramené sans arrêt. Nous sommes des enfants d'une femme ou des femmes,
mm-hmm,
et on ne peut pas être, disons, dans la vie sans cette reconnaissance du ventre. Parlant de ventre, on vient de ce ventre-là. Donc, c'est important de casser aussi les modèles de référence qui attirent nos jeunes, nos plus jeunes, vers ce qui ne correspond pas à ce qui est antinomique à leur réalité même d'humain. Donc, c'est l'éducation, ça passe par là. Et éduquer les jeunes garçons à assumer ce qu'ils sont, c'est-à-dire des produits nés d'une femme.
Oui, en effet.
Et ça viendra casser énormément de d'attitudes, de postures que l'on peut voir à travers le cinéma, que l'on peut voir à travers des cours d'école. Ce serait déjà un grand pas. Si ce travail n'est pas fait rigoureusement, sérieusement, ben on assistera encore et encore à des situations d'agression de toutes sortes, déclinées dans tous les domaines de l'activité humaine.
Ça m'amène à vouloir poursuivre en challengeant, comme on dit, votre couple, Caroline et Maca. Donc maintenant, trouvez-moi deux mots chacun qui qualifient votre couple et expliquez pourquoi. Alors, je laisse le premier commencer. Allez-y.
OK, je peux commencer.
Vas-y, vas-y.
Oui, je vais y aller. Bon, mais déjà, à la base, c'est la fondation, c'est l'amour. L'amour, pourquoi? Parce que on a du respect l'un pour l'autre, on a une profonde affection l'un pour l'autre, et nous ne sommes pas deux dans le couple, nous sommes trois. C'est-à-dire, il y a Caroline, il y a moi, et puis il y a nous deux. Et vous l'avez bien...
Marjorie, elle y va.
J'allais dire, vous avez toutes les recettes pour réussir.
Non, mais c'est ça. Donc, on a cette conscience du fait que nous devons nous considérer individuellement et en couple. Donc, ce qui fait que nous sommes trois. Ça, c'est pour l'amour. Et puis, l'autre mot, ce serait, disons, la complicité. On en a parlé. On n'a même plus besoin de se parler. On devine ce que pense
l'autre.
L'un l'autre devant X situation. Il nous faut juste un échange de regards pour savoir exactement ce qu'on a au fond du cœur. C'est ça, la complicité.
Maca, c'est maintenant que les soirs de pleine lune, il ne me parle plus.
C'est ça. Et pour vous, Caroline?
Je parlerai d'admiration. Oui. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Maca. Quand j'ai vu son pays natal, de voir d'où il vient, je pense que ça a changé beaucoup ma relation avec lui. On a une profonde admiration un pour l'autre, je pense, à différents degrés, différents niveaux.
Oui.
Ça, je pense que ça aide, parce que juste l'amour, c'est bien, c'est fondamental, mais à un moment donné, surtout après 15 ans, à un moment donné, il faut que le couple s'élève un peu, puis je pense que ça, l'admiration, ça fait que l'amour reste toujours là, en tout cas, reste toujours vivant.
Ça nourrit.
Il y a certainement l'humour aussi, je pense que... surtout moi, je suis vraiment drôle, mais il y a une... Parce que bon, je pense que tout le monde connaît Maca. Il est sérieux, il peut être très sérieux et très profond.
Oui.
Mais il est capable d'autodérision. On peut rire. En fait, on arrive à rire de beaucoup de choses, et notamment en pleine pandémie, notamment pendant les rénovations, pendant qu'on est en pleine guerre, ben on arrive quand même à rire. Oui, tout à fait.
C'est ce qui ressort dans votre livre. Donc, c'est déjà tout. Merci à Caroline Saint-Hilaire et Maca Cotto. Vous vous êtes livrés avec une belle générosité de cœur. J'apprécie beaucoup. Continuez à nous inspirer en tant que couple, mais également en tant que personne. Rappelons la sortie du livre « Rénover sa maison sans démolir son couple » que co-signe le couple inspirant Caroline Saint-Hilaire et Maka Koto, paru aux Éditions de l'Homme. Ceci met fin à notre émission. Merci à toute l'équipe. Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion technique. Un plaisir d'avoir été avec vous. Ici Marjorie Théodore qui vous donne rendez-vous pour d'autres belles rencontres.
Pour reconnecter Simon et Pierre-Luc à...
Deux relish moutarde puis une liqueur.
Et surtout, à ça...
Yeah! Voyons, j'ai plus de voix.
Il y a la STM. La meilleure façon de se reconnecter.